Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ces nouveaux carnets du monde faits à la maison. On est chacun de son côté, mais finalement tous ensemble, grâce à la radio, je vous propose de nous déconfiner et d'aller écouter le monde changer ailleurs. Avec d'abord un périple en Afrique. Ça y est, le Covid-19 y a débarqué et les défis sont colossaux pour ce continent. On en parle avec le grand reggaeman ivoirien Tikenja Fakoli qu'on va rejoindre à Bamako. Les sociétés africaines sont-elles en mesure de se confiner quand on sait que l'économie est d'abord informelle? Les systèmes de santé vont-ils pouvoir faire face? Comment le débat sur la chloroquine a gagné instantanément l'Afrique? Sur toutes ces questions, Tikenja Fakoli partagera avec nous sa connaissance du terrain humain. Et puis nous entendrons aussi des médecins et spécialistes de l'Afrique. Dossier complet dès le début de ces carnets. Du virus, il en sera aussi question avec Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis. La crise sanitaire est aiguë, en particulier à New York, et une personnalité se révèle dans la bataille, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. Et puis en début de semaine, le Covid-19 a eu raison d'un grand musicien d'origine camerounaise, unanimement apprécié, Manu Dibango. Un baobab est tombé, disent ses amis. J'ai appelé Youssou N'Dour et Angélique Kidjo pour qu'ils nous parlent de lui. Avec Nicolas Caro, on s'évade dans sa bibliothèque avec Robinson Crusoe carrément. Quant à Joseph, il s'interroge, c'est quoi un bien essentiel dont il faut se contenter en période de confinement? Eh bien parfois ça varie d'un pays à l'autre. Les carnets sont ouverts, direction l'Afrique.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Les premiers porteurs du Covid-19 repérés dans les pays d'Afrique étaient ce qu'on appelle des cas importés, mais désormais les contaminations sont locales et les chiffres grimpent vite, presque tous les pays du continent africain sont touchés. Les frontières se sont fermées, sauf bien souvent au transport de fret, aux produits de première nécessité. 95% des avions des compagnies aériennes africaines sont cloués au sol. Également fermées les écoles, les universités, les lieux de culte. Certains pays ont mis des villes en quarantaine, d'autres c'est tout le territoire qui est confiné. Bonjour Tikenja Fakoli.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Depuis Bamako, vous faites partie de ces artistes engagés et militants. Vous êtes ivoirien, mais vous vivez au Mali, où les tout premiers cas de personnes positives au coronavirus ont été découverts mercredi dernier. Est-ce que vous avez l'impression que les gens autour de vous, à Bamako, ont conscience de la situation?
Je pense que, effectivement, depuis que les premiers cas ont été annoncés, je constate que il y a quand même une prise de conscience, mais je ne veux pas vous affirmer que c'est général.
Parce que quand on s'est parlé cette semaine, vous me disiez quand même que beaucoup pensaient que bon, le Covid-19, ou c'était une maladie de blanc, ou ça n'arriverait pas au Mali.
Exactement, il y avait beaucoup de doutes. Il y avait beaucoup de doutes avant que les premiers cas soient annoncés. Moi, j'ai fait le tour, je suis sorti de ma maison. J'essaie de marcher dans le quartier. Et puis bon, les gens voulaient faire des photos avec moi. Il y en a qui voulaient me saluer. Je leur dis, mais je ne salue pas, moi, aujourd'hui. Et
les gestes barrières.
Voilà, j'ai dit, mais vous savez qu'il y a une maladie maintenant, là, et que, on doit absolument suivre les consignes de précaution. Donc, il a fallu que je m'arrête à chaque carrefour pour parler un peu aux gens. Et donc, je leur disais que c'est une réalité et que c'est pas seulement une maladie de blanc et que ça va forcément arriver ici si on ne fait pas attention. Les gens, ils disaient non, mais de toute façon, Dieu va protéger le Mali, etc. C'est ce qu'on disait. Mais depuis que les cas ont été annoncés, le lendemain, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient les cache-nez.
On prend un peu ses distances.
Bon, les distances, non, je n'ai pas vraiment constaté ça parce que ça, c'est quelque chose qui va être difficile à contrôler ici. Tout ce qu'on souhaite, c'est que cette maladie ne s'installe pas ici parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer les mêmes choses que l'Europe applique aujourd'hui, bien que l'Occident applique en général.
Alors, j'ai appelé justement Tikenja Fakoli, le fondateur d'SOS Médecins au Sénégal. Je lui ai demandé si le confinement n'était pas un peu illusoire dans les grandes villes comme Dakar où il est ou comme Bamako où vous êtes. Voilà ce que le docteur Massamba Diop m'a répondu.
Alors d'une part, ce confinement est obligatoire parce que on a beaucoup moins de moyens encore qu'en Europe et que donc il faut à tout prix aplanir la courbe. Mais parallèlement, la réalisation de ce confinement est forcément très différente parce que la plupart des citoyens, plus de 80%, vivre au jour le jour. C'est-à-dire qu'en fait, ils gagnent l'argent aujourd'hui pour pouvoir vivre demain, manger demain. Il n'y a pas le système, je dirais, d'assurance derrière qui va permettre de vivre. Et d'autre part, en plus, dans la cellule familiale, il y a beaucoup de monde. Et donc aussi, ce confinement, il faut y faire attention pour savoir comment gérer dans des concessions où vous allez avoir 30, 40 personnes.
Et pourtant, vous dites, on n'a pas le choix, il faut que ça marche, il faut le faire, parce que si les courbes de progression du virus ressemblaient à celles de Chine ou d'Europe, ce serait la catastrophe.
Tout à fait. En faisant juste une simple projection, ouais. 1% de la population comme en Chine, ça veut dire 160 000 citoyens sénégalais touchés. Sur ces 160 000, ça veut dire 24 000 qui auront besoin, a priori, d'oxygène. Et en plus de ces 24 000, on peut évaluer à 6 à 8 000 qui seront en réanimation. On n'a pas du tout cette capacité-là. Donc effectivement,
il y a combien de respirateurs au Sénégal ?
Alors, je dirais actuellement, on est à peu près, on peut évaluer à peu près une soixantaine et on pourra pousser en récupérant certains peut-être à une centaine, ou sinon il faut vraiment une aide massive qui va permettre de monter en puissance. Mais pour l'instant, c'est cela.
Voilà le docteur Diop de SOS Médecins à Dakar. Tikenja Fakoli, vous êtes toujours avec nous depuis Bamako. C'est une course contre la montre qui s'est engagée dans beaucoup de pays africains pour tenter d'identifier les cas, de les traiter, de les isoler, pour finalement empêcher la propagation à tout prix. C'est ça la priorité, parce que les pays d'Afrique, on vient de l'entendre, n'ont pas les moyens de faire face à une pandémie. C'est ce que vous disiez aussi il y a quelques instants.
Exactement. Vous savez, quand c'est chaud chez nous, quand nos dirigeants sont malades, c'est en Europe qu'ils vont se soigner. Et donc, aujourd'hui, l'Europe même est carrément ébranlée par cette situation. Donc, c'est chaud. Je pense que le confinement en Afrique, ça va être très, 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 très compliqué. Pour que les Africains acceptent d'être confinés, de ne pas bouger de leur maison, il faut vraiment qu'il y ait des milliers de morts. Je pense que c'est ce qui peut effrayer pour que les gens restent à la maison, pour que les gens acceptent d'avoir faim que d'aller chercher à travailler. Ça, je ne le souhaite pas du tout, mais sinon, le confinement, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut au maximum sensibiliser pour que les Africains se lavent les mains. Il y a déjà une dizaine de jours, moi j'ai mis de l'eau devant ma porte avec du savon et j'ai mis du gel à l'intérieur de la cour. Donc c'est-à-dire quand les visiteurs viennent, ils doivent laver les mains. Et ensuite quand ils rentrent, ils doivent essuyer leurs mains avec le gel. Tous ceux qui sortent de la maison, quand ils vont faire une course dehors, quand ils reviennent, ils sont obligés de se laver les mains et d'utiliser le gel. Et j'ai acheté beaucoup de gel aussi. Que j'ai distribué à, en tout cas, tous les gens que je connais, tous les gens avec lesquels je suis en contact.
Alors, les gouvernements font des campagnes de communication pour faire la promotion de tous ces gestes dont vous venez de parler. Et puis, les artistes sont là en renfort. Là, voilà un extrait de la chanson du collectif de rappeurs sénégalais Y'en a marre.
Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes capitales pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, vous te gueudouillons. Vos vidéos pour le buzz, des intox sur des intox. Ceci n'est pas normal, vous te gueudouillons. On parle de millions de vies humaines, le Sénégalais est expert en tout, mais à chacun son domaine.
Vous aussi, Tikenja, vous préparez une chanson avec d'autres artistes africains
Exactement. Ouais. Je prépare un single. Je ne dirai pas le nom des artistes pour le moment parce que, voilà, en tout cas, je les ai contactés. Ils sont partants. Quand ça sera concret, vous serez informés.
Communiquer, ça sert aussi à déconstruire des croyances. Je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur le débat qui est parti de France, de Marseille, sur les effets de l'antipaludéen chloroquine pour traiter le Covid-19. Alors, sans rentrer sur le fond du débat, parce que ni vous ni moi ne sommes médecins, il a eu des effets pervers ce débat. C'est la ruée dans les pharmacies, sur les marchés noirs du médicament pour se procurer le fameux antipaludéen qu'on n'utilise plus depuis 10 ans d'ailleurs en Afrique de l'Ouest parce qu'il était plus efficace contre le palu, il y avait des résistances qui étaient apparues. Écoutez le docteur Charlemagne Ouédraogo, il préside l'ordre des médecins au Burkina Faso et il a voulu remettre un peu de raison face à la ruée dans les pharmacies.
Quand vous regardez sur les réseaux sociaux avec l'équipe du professeur Raoul à Marseille et puis aussi la polémique sur le plan international, vous avez beaucoup de pays qui ont commandé de la chloroquine, de l'azithromycine. Donc les populations pensent qu'en avalant la chloroquine, ils ne vont pas avoir l'infection à coronavirus ou que quand ils ont des symptômes, en prenant cela, ça va disparaître. Dans tous les cas, cela développe et ça a déjà commencé les médicaments de la rue et de la contrefaçon. Lorsqu'on avance que ce médicament peut soigner, alors que les études ne sont pas arrivées au terme, vous pouvez comprendre que pour trouver des solutions, les gens vont passer par tous les moyens pour avoir ce produit. Et la contrefaçon va mettre sur le marché des produits, soi-disant que c'est de la chloroquine, mais qui contiennent des substances qui pourraient être nuisibles pour la santé des populations. Même hier, j'ai vu une boîte, comment vous m'envoyez la photo par WhatsApp pour me dire « Ah, président de l'ordre, voici un produit qui est vendu dans la rue à 3000 francs CFA ». Il y a eu un micro-trottoir par les chaînes nationales qui ont montré des gens qui ont fait près de 100 pharmacies à la recherche de chloroquine. Tout simplement parce qu'ils ont vu sur Internet, parce qu'ils ont suivi les médias européens. Tous ceux qui font circuler les médicaments parallèles de la rue, ce sont des criminels parce qu'ils mettent la santé des populations en danger. Et vous comprenez que la population, dans ce désarroi, n'ayant pas d'autre solution, est tentée d'aller prendre un médicament qui est appelé chloroquine et qui est vendu par n'importe qui au bord de la rue.
Voilà. Plusieurs pays africains ont décidé d'intégrer l'hydroxychloroquine dans leur protocole de soins des malades du coronavirus. Le Burkina, justement, de manière expérimentale. Le Sénégal aussi, l'Algérie, le Maroc, le Togo, le Bénin a fait des stocks. Tikenja Fakoli, vous aussi, vous avez pris vos précautions.
Ah oui, moi j'ai pris mes précautions. Je pense que tous ces pays-là ont raison, hein, parce que, vous savez, c'est le seul médicament qui donne un peu d'espoir aujourd'hui. Moi j'ai cherché au moins 3 boîtes que j'ai à la maison. Par prudence et par précaution et par anticipation, j'en ai acheté, oui.
Les ONG sont mobilisées sur le terrain Tikenja Fakoli pour aider à combattre le virus. Et dans cette bataille qui s'engage en Afrique, il y a aussi beaucoup d'initiatives citoyennes. Ce sont des projets locaux, associatifs, que la Croix-Rouge française a décidé de soutenir. Écoutez Frédéric Boyer, directeur des opérations internationales.
Ce que cherchent à faire nos équipes sur le terrain, c'est de soutenir des initiatives locales qui sont prises par des Africains. Il y a des initiatives communautaires, des initiatives citoyennes dans plusieurs pays qui sont efficaces. Concrètement, je pense par exemple à des initiatives prises par des groupements de femmes dans plusieurs pays du Sahel, au Niger, au Tchad, pour aller faire du porte-à-porte, pour aller diffuser des messages de prévention sur les gestes barrières, sur le lavage des mains. Je pense aussi au Niger, la Croix-Rouge du Niger à Gades, qui a décidé de fabriquer de façon artisanale des solutions hydroalcooliques. Parfois des initiatives plus ambitieuses à Kinshasa, qui, comme vous savez, est très menacée par l'épidémie. La Croix-Rouge de République démocratique du Congo projette de mettre en place des dispositifs de triage qui, à l'entrée des centres de santé ou à l'entrée des hôpitaux, permettront d'isoler les personnes à risque pour permettre d'une part qu'elles soient traitées de façon adéquate et d'autre part qu'elles soient isolées des autres patients de façon à réduire les risques de contamination. Donc il y a plein d'initiatives qui se prennent sur le continent. L'Afrique, comme je vous le disais, se prend en main face à cette épidémie, fait preuve d'énergie, de dynamisme. C'est une Afrique entreprenante et que nous devons d'aider.
Voilà des initiatives locales. Tikenja Fakoli, ce sera décisif, la mobilisation et l'inventivité des citoyens dans cette bataille.
Ah oui, parce qu'il faut une sensibilisation de masse et donc il faut que la société civile s'implique, il faut que les artistes s'impliquent, il faut que les ONG s'impliquent, il faut que tout le monde s'implique parce que c'est tout le monde qui est concerné. Hein. Je pense qu'on est dans la même bataille, les hommes et les femmes qui sont écoutés. Quand ces hommes-là disent ou les femmes-là disent que cette maladie-là est une réalité, et je pense que ça peut toucher les populations.
On parle déjà ici en Europe des conséquences économiques et sociales qui risquent d'être terribles quand le virus nous aura quittés, quand cette guerre sera terminée. Ça va être également un immense défi pour le continent africain.
Oui, ça va être un défi, ça va être un défi. Pour tout le monde, hein, je pense que toute la planète qui va prendre un coup après le passage de ce virus-là. Hein.
Je propose d'écouter... Cyril Ferrand, il travaille pour la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation. Il est en charge du programme Résilience pour l'Afrique de l'Est. Et ce qu'il m'a dit, c'est que le Covid-19, eh bien, c'était un problème de plus.
L'Afrique de l'Est est confrontée à un certain nombre d'événements, de phénomènes climatiques. On a eu beaucoup de sécheresses depuis 2016 jusqu'à 2019. On a eu quelques événements, quelques épisodes d'inondations également. Sur des pays comme le Sud-Soudan, la Somalie, on a des zones de conflit aussi importantes. Depuis octobre, on a eu la présence donc du criquet pèlerin qui a démarré sur la Somalie, l'Éthiopie, puis qui s'est répandu sur 9 pays de la région. Et donc le CRIC Pèlerin est à l'heure actuelle le fléau le plus important que nous essayons de combattre depuis décembre, janvier. Et puis sur la saison des pluies qui va commencer en avril, là effectivement il risque d'y avoir un impact important sur les récoltes, puisque le criquet va se nourrir des jeunes plants de maïs et de sorgho qui vont être plantés début avril.
Ça veut dire que ce virus, le Covid-19, arrive sur un terrain où il y a déjà par exemple une insécurité alimentaire à laquelle il faut faire face ?
On est dans la région, dans la grande corne de l'Afrique, hein, du Soudan jusqu'en Tanzanie, passant par le Kenya, Somalie, Éthiopie, Djibouti, toute cette zone-là. On a déjà environ 20 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Donc tous ces facteurs aggravants vont forcément s'accumuler, et Covid-19 est effectivement un de ces phénomènes, parce que les chaînes d'approvisionnement vont être perturbées, parce que on risque d'avoir une augmentation des prix des biens de consommation sur les marchés. Donc forcément, effectivement, on va avoir un effet de cumul qui va impacter toutes ces populations urbaines comme rurales d'ailleurs.
C'est certain. Je pense que voilà, ça va créer des problèmes. Mais vous savez, depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours réussi à se relever.
On vous sent très très conscient du problème, Tikenja Fakoli, sans doute beaucoup plus que beaucoup des populations qui vous entourent. Et vous dites toujours, vous, qu'il faut que les Africains se prennent en main, qu'ils ont beaucoup d'atouts, et notamment ce dynamisme, cette jeunesse. Dans cette épreuve-là, est-ce que l'Afrique a besoin de la solidarité du reste du monde ?
Je pense que dans toutes les épreuves de ces gens, on a besoin les uns des autres, on a besoin de solidarité. Mais je pense que s'il y a une prise de conscience générale en Afrique, voilà, on peut avoir de l'imagination, on peut créer des choses. Nous-mêmes, on peut apporter des choses à l'Occident dans cette histoire. Vous savez, depuis notre enfance, nous, on a toujours... Moi, j'ai eu une quinzaine de paludes dans ma vie. Hein. Donc, voilà, je sais que mes parents n'avaient pas les moyens de m'amener à l'hôpital. Donc, il y a des feuilles qu'on coupait. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une prise de conscience, on peut même aller vers nos médecins traditionnels. L'Afrique a besoin de solidarité, mais l'Afrique peut aussi aider le monde à sortir de cette situation.
Est-ce qu'il vous fait peur, ce virus, pour finir ?
Ah, il fait peur, il est invisible, il est imprévisible. Donc c'est le monde qui est ébranlé, donc c'est incroyable. Et il n'y a pas longtemps, mon album s'appelle « Le monde est chaud ». Je pense que le monde est vraiment chaud aujourd'hui. Voilà, on ne sait pas où mettre la tête, en fait, avec ce virus-là. On ne le voit pas, ce virus, mais on sait comment le ralentir. Et donc, voilà, il faut se laver les mains, il faut mettre les cache-nez, il faut mettre la distance quand on discute ou bien quand on travaille, etc. Ce sont ces précautions-là qu'il faut utiliser comme gilet pare-balles aujourd'hui.
Le monde est chaud, c'est donc une chanson de votre dernier album, le 11e. Elle parle du climat qui se réchauffe, mais aussi d'une attitude pour affronter la crise. Alors on va l'écouter ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous, Tikenja Fakoli.
C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Ouais.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Les carnets du monde.
C'est un nouveau rendez-vous qu'Europe 1 vous propose chaque vendredi matin entre 9h et 9h30, les petites voix d'Europe 1. Et comme ces petites voix échangent depuis plusieurs pays, eh bien on les retrouve dans les carnets du monde, Sophie Larmoyer. Ils sont confinés eux aussi avec leurs parents, parfois des frères et sœurs. Ils s'appellent Sacha, Olivia, Rosalie, Marius et Violette et habitent New York, Bruxelles, Berlin, Sèvres et Paris. Ils ont entre 9 et 15 ans et comparent leur confinement et leurs réflexions sur ce moment si exceptionnel. Une petite agora à distance organisée par Xavier Yvon depuis New York.
Bon, alors ça fait environ 2 semaines que vous êtes tous confinés à la maison, ça dépend un peu des pays. On va essayer de parler un peu de ce qui se passe à l'extérieur de la maison, de ce qu'on comprend. Et on va commencer avec cette question.
Bonjour, je m'appelle Léon, j'ai bientôt 8 ans. Est-ce qu'on applaudit à New York à 20h pour les hôpitaux, comme en France ?
Non, à New York, on fait pas ça. Mais il y a un truc super que j'aime bien, c'est les enfants ou les adultes dessinent un arc-en-ciel. Ils collent les arc-en-ciel aux fenêtres parce que comme les rues sont vides, il n'y a pas vraiment de couleurs parce qu'il n'y a personne et tout. Donc les arc-en-ciel, il y a beaucoup de couleurs, donc ça rassure les gens et tout. Et ça fait un petit peu de la lumière, quoi.
Ici à Paris, quand il y a une ambulance, des pompiers ou alors... des médecins, on applaudit encore plus fort parce qu'on sait aussi que c'est pas simple pour eux.
Berlin, notre voisin, il est médecin dans le plus grand hôpital de Berlin et il travaille beaucoup et il a vraiment l'air fatigué. Et quand on applaudit, comme ils sont juste au-dessus de nous, on voit aussi qu'ils applaudissent et ça leur donne du courage.
C'est à Bruxelles, c'est que le fait qu'on puisse tous applaudir, j'adore l'idée parce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire et tout le monde a cette possibilité-là. Alors que parfois, genre, donner de l'argent, c'est bien, mais tout le monde peut pas faire ça et c'est de penser que c'est un geste qu'on n'est pas obligé d'avoir certaines capacités de pouvoir soigner et c'est quelque chose qu'on peut tous faire, quel que soit notre âge, et on peut comprendre l'intérêt de ce moment.
Et qu'est-ce que vous savez d'autre de ce qui se passe dehors ?
Moi, à New York, il y a un truc qui se passe, c'est que comme on a arrêté les restaurants, les magasins et tous les endroits qui sont pas nécessaires, à part les banques et les supermarchés et les pharmacies, les gens, ils ont plus de travail, donc chaque jour, il y a plus de gens qui perdent leur travail. Et donc, ils ont plus d'argent et il y a beaucoup de gens qui deviennent pauvres. Aussi, il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets au coronavirus. Donc, il y a des gens qui font des pubs ou qui disent aux gens, par exemple, le thé chaud, ça guérit le coronavirus, alors que c'est totalement faux. Et par exemple, mes grands-parents, ils ont envoyé un message, vous devez boire du thé chaud, si vous avez le coronavirus, ça va l'enlever.
En fait, il y a beaucoup de fausses informations sur ce thème, alors faites attention.
Faites attention aux fausses informations. Merci les enfants. Et pour terminer, Sacha, le mot de la fin.
Stay safe and wash your hands.
Prenez soin de vous et lavez-vous les mains. Merci les petites voix. Et on va justement retrouver Xavier Yvon dans un tout petit instant à New York, un état très touché par l'épidémie de Covid-19.
Europe 1, les carnets du monde.
Écoutez le monde changer chaque dimanche de 13h à 14h sur Europe 1 avec Sophie Larmoyer. Après l'Afrique et les impressions des petites voix sur le confinement, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que l'on part observer les effets du Covid-19.
Les États-Unis sont devenus cette semaine le pays où il y a le plus de cas au monde de coronavirus. Et dans cette tempête, les Américains se cherchent des leaders. Justement, une figure émerge ces derniers jours, celle du gouverneur de New York. On retrouve Xavier Yvon sans ses petites voix cette fois. Bonjour Xavier.
Oui, tout seul. Hello Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à New York, l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis. Et chez vous, c'est donc Andrew Cuomo, le gouverneur démocrate de l'État, qui est en première ligne.
Oui, c'est devenu un rituel. Tous les jours, en fin de matinée, les chaînes d'info nationales retransmettent ses conférences de presse en direct. Alors, il n'est pas président, il ne dirige que l'État de New York, mais Andrew Cuomo, souvent revêtu de son polo de crise, joue le rôle de Captain America en temps de coronavirus et des millions d'Américains l'écoutent marteler la réalité.
Écoutez, ça peut durer des mois, ok ? On va pas vous dire demain matin aux infos, surprise, surprise, tout s'est résolu en deux semaines, ça n'arrivera pas. Donc comprenez dans quelle durée on s'inscrit. Acceptez-la et trouvez un moyen de vous aider les uns les autres, parce que c'est dur pour tout le monde. Le but pour moi, c'est distancier socialement mais spirituellement connecté.
À tout le style Cuomo est dans cet extrait, hein, brut, franc, factuel, pédagogue, empathique. Le contraste est saisissant avec Donald Trump. Andrew Cuomo donne des chiffres précis et cliniques. New York a 3000 lits en soins intensifs, il en faudrait 10 fois plus. Il prend des mesures fortes, par exemple la production par l'État de New York de solutions hydroalcooliques, la transformation d'un centre des congrès en hôpital. Il assume ses décisions. Si vous n'êtes pas content des commerces fermés, soyez en colère contre moi, dit-il aux New-Yorkais. Et il conclut souvent ses briefings par un « New York vous aime, l'amour gagnera contre ce virus ». Regardez ses conférences de presse, c'est devenu une sorte de thérapie pour certains Américains, même ceux qui ne sont pas à New York. Julie Andrews, vous savez, l'actrice de Mary Poppins, elle a dit cette semaine qu'elle regardait les briefings d'Andrew Cuomo juste parce que ça lui faisait du bien. Ses comptes de réseaux sociaux explosent de nouveaux abonnés en quête d'un dirigeant fiable.
Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu, cet Andrew Cuomo ? On le connaît mal ici.
Alors nous, on commence à bien connaître son visage, sa mâchoire carrée et son regard sévère. Andrew Cuomo, c'est l'héritier d'une famille italo-américaine de New York. Son grand-père était épicier dans le Queens. Son père, Mario Cuomo, était déjà gouverneur avant lui. Il a fait 3 mandats. Andrew, qui a 62 ans, en est lui aussi à son troisième mandat. Il a aussi été ministre d'un certain Bill Clinton. Il est marié à une Kennedy, une des filles de Robert Kennedy. Et son petit frère, Chris Cuomo, est l'une des vedettes de CNN. D'ailleurs, il reçoit régulièrement Andrew dans ses émissions, ce qui donne lieu à des échanges assez lunaires, des taquineries dont se régalent les Américains. Comme celui-ci.
Gouverneur Andrew Cuomo, j'apprécie que tu sois venu dans notre émission. Je t'aime, je suis fier de toi. Mais appelle maman. Elle aimerait avoir de tes nouvelles. Sache-le.
Oui, j'ai appelé maman. Juste avant de venir dans ton émission, d'ailleurs, elle a dit que j'étais son fils préféré.
Elle n'a jamais dit ça.
La bonne nouvelle, c'est qu'elle a dit que tu étais son deuxième fils préféré.
Et je n'arrive pas à croire que tu mentes à mes téléspectateurs. Tu fais exploser la crédibilité de l'interview, j'aurais dû y mettre fin plus tôt.
Son deuxième fils préféré. Écoute ce que je te dis.
Allez, reste fort pour les gens de ton état. Merci d'être venu. Je t'aime, mon frère.
Moi aussi, mon frère.
Alors, il y a d'autres extraits où il est question de leur rivalité au basket et toujours de leur mamma Mathilda, 88 ans. Ça participe aussi, ces moments, de la popularité actuelle d'Andrew Cuomo. Et c'est intéressant parce qu'avant, il était plutôt mal vu avec son style autoritaire et rugueux. Mais c'est un maniaque de contrôle. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, écrit même le New York Times.
Ça ne doit pas être du goût de Donald Trump de se faire voler la vedette comme ça.
Alors, pas trop, mais Andrew Cuomo a été suffisamment habile dès le début pour louer sa relation avec Trump, leur conversation téléphonique, ça a marché. Donald Trump a aussi pris Andrew Cuomo en exemple. Alors, ça s'est un peu dégradé depuis quelques jours parce que le gouverneur de New York critique ouvertement la réponse fédérale. Pas assez de respirateurs. Il en a reçu 400 alors qu'il en réclame 30 000. Qui a besoin d'autant de respirateurs? S'est moqué Donald Trump. Et puis, Andrew Cuomo se sert aussi de cette plateforme pour faire passer des messages nationaux. On a besoin d'un gouvernement compétent, a-t-il dit, pas de quelqu'un qui a plus d'abonnés sur Twitter. On ne peut pas être plus clair. D'ailleurs, certains rêvent déjà de le voir candidat à la prochaine présidentielle, même si ça paraît aujourd'hui très compliqué.
Et d'ailleurs, Xavier, il a pris part dans le débat national qui s'est imposé cette semaine dans le pays. C'est un débat qui peut nous paraître un peu surprenant ici, sur le mode la bourse ou la vie.
Oui, c'est la nouvelle rengaine de Donald Trump. Le remède ne peut pas être pire que le mal. Comprenez, mettre le pays à l'arrêt en confinement, ça va le détruire. On va perdre plus de monde si on plonge dans une énorme récession, a dit Donald Trump. Il y aura des suicides par milliers, de l'instabilité. Et comme le président américain, de plus en plus de conservateurs appellent à ne pas sacrifier l'économie à la lutte contre le virus. Et ça va très loin. Le lieutenant-gouverneur du Texas affirme carrément qu'il préfère, lui, sacrifier les seniors comme lui.
Retournons au travail. Et les plus de 70 ans comme moi, on va se débrouiller. Est-ce qu'on n'est pas prêt à prendre le risque d'y passer pour garder l'Amérique telle qu'on l'aime, pour nos enfants et nos petits-enfants? Il y a des tas de grands-parents comme moi qui ne veulent pas qu'on sacrifie le pays tout entier.
Voilà, voilà. Donc, en clair, il est prêt à mourir pour que l'économie ne s'effondre pas, j'ai tout compris.
Exactement.
Donc, Andrew Cuomo, comment il s'est positionné dans ce débat?
Ah bah lui, il répond, ma mère n'est pas jetable, vos mères ne sont pas jetables. Andrew Cuomo refuse de sacrifier 1 ou 2% des New-Yorkais sur l'autel de l'économie, mais il propose d'autres solutions plus innovantes pour redémarrer l'activité. Parce que c'est vrai que c'est un débat très intense ici aux États-Unis, où il y a moins de filet social qu'en France ou en Europe. Il y a déjà beaucoup de gens très pauvres, la moitié de la population n'a pas d'épargne, et les chiffres du chômage sont déjà vertigineux. Plus 3 millions d'inscrits cette semaine, c'est historique.
Les effets collatéraux du virus feront également très très mal, partout d'ailleurs, mais aux États-Unis aussi. D'où cet accord historique voté par le Congrès cette semaine, 2 000 milliards de dollars pour relancer l'économie, c'est ça Xavier?
Oui c'est ça, ça fait 15 zéros derrière le 2.
Ouais. Merci beaucoup. Merci Xavier pour ce coup de projecteur et de nous avoir fait découvrir cette personnalité qui montre Andrew Cuomo. Et à très bientôt, portez-vous bien.
À bientôt Sophie.
Europe 1, les carnets du monde.
En cette période de confinement, reporters, correspondants, s'adaptez-vous aussi qui nous écoutez. Vous devez vous adapter et parfois occuper ce moment de pause. L'occasion d'ouvrir un livre dans le monde. Tiens, c'est maintenant, plus que jamais. La littérature est au rendez-vous dans les carnets avec vous, Sophie Larmoyer, et avec Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Les librairies sont fermées, les nouvelles publications mises sur pause. Mais c'est le moment ou jamais de se rattraper ou de relire quelques chefs-d'œuvre. Et cette semaine, on s'est dit ensemble, évasion. Vous êtes donc allé chercher dans les grands classiques et vous nous parlez de Robinson Crusoe.
Mais oui, de Daniel Defoe, nous sommes au XVIIe siècle en Angleterre. Un jeune garçon de bonne famille, Robinson, donc, est tenté par l'aventure. Mais son père lui dit, voilà, j'ai de l'argent, donc tu en as. Si tu es sage, que tu restes tranquille, tu seras, sinon heureux, au moins à l'abri du besoin pendant toute ta vie. Mais si tu cèdes à ta curiosité, à ton penchant pour la prise de risque, alors je te prédis que tu seras accablé de malheur et que ça finira mal.
Mais donc Robinson n'écoute pas son père.
Et non, il s'embarque sur le premier navire venu, sauf qu'une tempête éclate, il se paye une belle frousse, l'équipage doit abandonner le navire, il s'en sort quand même, miraculeusement, il rentre en Angleterre, l'un de ses amis vient le voir et lui dit « Bon, maintenant, faut arrêter, rentrer à la maison », mais non, Robinson n'en démord pas, il veut parcourir le monde, donc il s'embarque à nouveau, cette fois il est capturé par des pirates, il s'en sort encore, je vous passe les détails, mais il finit par s'installer au Brésil, il exploite une petite plantation et ses affaires commencent à bien marcher.
Mais il s'ennuie, c'est ça ?
Eh ben oui, comme toujours. Et il repart à l'aventure. Le bateau, bien entendu, fait naufrage. Et lui, il se retrouve seul sur son île déserte, la fameuse, la célèbre. La suite, on connaît. Il y restera 28 ans. Il se construit sa petite vie sur l'île. Il trouve d'abord une caverne. Puis il se débrouille pour cultiver la terre, élever des chèvres même. Il va aussi affronter toute une série de dangers. Ça va être l'un des romans les plus célèbres du monde. Daniel Defoe a créé un véritable mythe. Mais à partir de faits réels, le vrai Robinson s'appelait Alexander Selkirk. C'était un voyou, un voleur, et Selkirk a pris la mer pour fuir la police en fait. Michel Lebris, le grand spécialiste de la littérature populaire et fondateur du festival Étonnant Voyageur, au passage, nous en dit un peu plus.
Il s'embarque sur un navire commandé par un certain William Dampierre, pirate à 16 heures. Selkirk immédiatement conteste l'autorité de Dampierre, et à la fin, Dampierre en a marre, et se trouvant au large des côtes chiliennes, voulant faire de l'eau à l'île de Juan Fernandez, se dit « Bon, j'en ai ras-le-bol de ce mec » et crac, il l'abandonne sur l'île. Et puis, quelques années après, il passe au large de l'île Juan Fernandez et tout d'un coup, Dampierre se dit « Mais mince, c'est là que j'ai laissé mon Olibrius là, est-ce qu'il est encore en vie ?»
Et alors, il le retrouve ?
Oui, après 3 ans sur son île, Selkirk raconte son histoire en rentrant chez lui et voilà comment Daniel Defoe a eu l'idée de cette intrigue dans les journaux.
Au départ, la réception du public a été bonne ?
Plutôt, oui. Et un peu plus tard, c'est un philosophe français un tout petit peu connu qui va lui donner un regain d'intérêt.
Le succès extraordinaire, mondial, de Robinson va venir de Jean-Jacques Rousseau. Dans l'Émile, il dit en gros, qui est un manuel d'éducation donc pour les enfants, il a une position radicale, il faut prescrire tous les livres qui sont absolument inutiles. Il n'y en a qu'un qui est nécessaire, c'est Robinson.
Un succès qui continue aujourd'hui.
Mais oui, c'est dingue d'ailleurs. Ouais. Robinson, c'est l'un des premiers romans modernes. On se rend pas compte, mais ça fait quand même 300 ans que ça a été écrit. C'est encore de première fraîcheur, sans doute parce que Robinson représente l'évasion pure, mais avec un prix à payer quand même, la liberté totale, mais hors du monde et de la société.
Un confinement en soi, en quelque sorte.
Exactement.
Mais on peut vivre l'aventure par procuration en lisant donc Robinson Crusoe. Merci beaucoup Nicolas.
Merci Sophie.
Et vous serez fidèle au poste tout à l'heure pour La Voix et Livre, on vous retrouve. Et dans un instant, hommage à un très grand de la musique africaine, et pas seulement, Manu Dibango, raconté par Youssou N'Dour et Angélique Kidjo.
Et on écoute Le Monde Change avec vous, Sophie Larmoyer, jusqu'à 14h sur Europe 1. Il fait partie des victimes du coronavirus. Manu Dibango est mort mardi à 86 ans. Et les hommages se sont multipliés pour cet immense musicien.
Saxophoniste de légende, géant de la musique africaine, tout le monde se souvient de cette silhouette imposante, ce visage avenant, souvent avec des lunettes de soleil, et ce rire généreux qui fendait l'air. Papy Groove, comme l'appelaient certains, avait 60 ans de musique derrière lui et beaucoup de vie. Dans les carnets aujourd'hui, on donne la parole à 2 grands autres musiciens africains qui ont une admiration sans bornes pour Manu Dibango. Le premier, c'est le chanteur sénégalais Youssou N'Dour.
J'ai découvert Manu Dibango, j'étais très jeune. Chaque week-end, je rentrais chez mon père. Je vivais avec ma grand-mère. Il n'y avait qu'une radio, à l'époque, la Radio Nationale. Et dimanche, quand je rentrais, il y avait une émission qui présentait un peu la musique moderne. Mmh. Et j'entendais tout le temps le sax de Manu Dibango, Soul Makossa. Et vraiment, ce sont vraiment les premiers instants où j'ai aimé cette direction musicale qui incarnait un peu... pour moi, la musique moderne africaine, et je me souviens. Je me souviens aussi que la première rencontre, c'était à Abidjan, et il y avait une grande manifestation où il y avait beaucoup d'artistes à l'époque. Donc j'étais très jeune quand je suis venu, et je me souviens tout le temps quand on m'a dit « Le grand voulait te voir ». Et c'était un moment très fort. Je me souviens avoir, quand je l'ai vu avec son sourire légendaire, c'était très émouvant. Je voyais un guide, un père de la musique. Et Mandy Dubango a toujours été pour nous notre représentant dans ce qu'on appelle la musique mondiale. Vous savez, on revendique toujours certaines musiques parce que nous pensons que depuis l'esclavage, il y a des musiques aussi qui sont parties et qui nous reviennent. Des fois, on sent que c'est une partie de nous. Et Manu a toujours incarné cela, que ce soit dans les styles de jazz et tout. C'était notre représentant, c'était le trait d'union. C'était lui qui incarnait vraiment cette intelligentsia musicale africaine moderne dans le concert des nations. Et c'était une fierté aussi.
Où vous situez son africanité dans sa musique ?
Mais d'abord, rien que d'entendre le son de son sax avec quelque chose d'africain, le souffle avait beaucoup, beaucoup d'africanité. Ses compositions sont vraiment basées aussi sur le continent avec des tonalités vraiment qu'on sent qu'il parle pour nous. Ou rien que d'entendre rigoler, ça c'est la joie de vivre africaine qu'il incarne chaque fois qu'il est avec les gens et tout. Non, énormément, il symbolisait vraiment l'Afrique, mais l'Afrique moderne. On priait toujours, parce que chaque fois qu'on le voyait, on était impressionné par sa force de présence et de donner ce petit quelque chose à tout le monde, en parlant, en rigolant, en faisant des émissions de radio, en jouant, en partageant énormément de choses. Il donnait un petit truc à tout le monde. En tout cas, il a joué sa partition ici, et je suis sûr qu'une partition ici, c'est voilà, une continuité aussi, là-haut.
Youssou N'Dour, une belle partition pour Manu Dibango, sur laquelle s'est pas mal promenée la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, intarissable sur son ami Manu.
Manu a été la personne la plus importante pour mon premier disque, Le Gozo. Et les gens ne se sont pas rendus compte de ça. Je l'ai invité pour que son saxophone soit comme une bénédiction et que ce soit un soutien pour moi. Il est venu. La touche qu'il a apportée aux chansons, c'est du Manu, quoi. C'est musical, c'est punchy, c'est dans l'esprit de l'album, alors qu'il n'a pas écouté tout l'album. Cette oreille musicale qu'il avait, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et le rôle aussi de transmission qu'il avait, c'est-à-dire parler aux jeunes, amener les jeunes pour bosser avec lui. Il a produit tellement de choses, c'est absolument hallucinant, quoi. Il a été directeur musical de la télévision ivoirienne. Il a travaillé avec plein de jeunes artistes du continent africain. Il n'y a pas un artiste aujourd'hui qui a 30, 40, 50 ans qui ne se rappelle pas de Manu. C'est pas possible, quoi. Il a travaillé avec Dick Rivers, avec Jean-Michel Jarre. Mais c'est un caméléon. C'est un caméléon. Toutes les musiques, il arrive de son côté, avec le côté jazz, de l'improvisation, il arrive toujours. Tous les musiciens qui ont rencontré Manu sont partis avec un bout de Manu avec eux.
Il disait qu'il aimait bien se présenter comme un musicien d'origine camerounaise parce que ça lui donnait la liberté d'aimer aussi Rachmaninoff, Piaf, Gainsbourg, Count Basie, etc. C'est ce côté caméléon dont vous parlez.
Bah oui, mais parce que la musique, pour aimer Rachmaninoff, Bach, de passer de Bach au boléro de Ravel ou de faire n'importe quelle musique, si on n'a pas une culture profondément africaine, on ne le peut pas. Parce que c'est de là d'où viennent toutes ces musiques-là. Le boléro de Ravel, c'est écrit sur des mots d'Africains. Quand on écoute les sarabandes de Bach, c'est quoi? C'est la danse des descendants d'esclaves du Panama. Et c'est un mélange des danses de l'Afrique noire et du Maghreb. C'est un mélange de tout. La musique est dans notre ADN parce que nous sommes tous des homo sapiens, nous venons tous d'Afrique.
Et Manu Bango, il était comme ça.
Ah ouais, mais lui, c'est avec son saxophone, des fois, il n'avait même pas envie de parler. Il commençait à jouer et il mettait tout le monde d'accord. Et ces 12 notes de musique portent toutes les émotions du monde. On peut les utiliser pour pleurer, pour chanter, pour danser. Et c'est ça qui nous lie. C'est cette musique qui nous parle. Et puis c'est tout.
Il vous appelait Anjo.
Ah oui, je sais pas pourquoi, mais Anjo. J'ai dit, mais c'est quoi Anjo? J'ai dit, mais c'est la joie. Tu es tout le temps gay. Donc, Ange et joie. J'ai mis un Angélique et joie en même temps. Donc, c'est Anjo. Bon, d'accord. J'ai dit, d'accord, je prends.
On dit que c'est un grand baobab qui est tombé, là.
C'est un baobab, c'est un géant, c'est un monument, c'est un tout. On a perdu quelque chose d'énorme en Afrique, là. Parce qu'une personne de cette ouverture culturelle, et il n'a jamais, jamais dit « telle musique n'est pas bonne ». Il disait toujours « toutes les musiques sont bonnes ». Il faut savoir les écouter, c'est tout. Donc, ce caméléon et ce monument, ce baobab et ce géant avaient compris tout ça. Il mettait tout dans sa musique. Et moi, je disais toujours, son saxophone était l'extension de son souffle.
Angélique Kidjo, est-ce que vous auriez envie de lui chanter une petite chanson aujourd'hui?
Ouais, mais sa chanson que moi j'aime bien, que je l'ai tellement bassiné la tête avec un projet qu'on avait envie de faire ensemble, c'est de chanter des chansons de Manu qui ont bercé mon enfance et d'autres grands compositeurs camerounais. On était en train de commencer à faire un répertoire par rapport à ça.
Alors voilà, vous en choisissez une petite là?
Une petite, Somaloba, il adorait cette chanson. C'est une chanson de prière quoi, pour la bénédiction, pour la vie, pour tout, Somaloba. Somalomba, Somalomba, obente la la bunyaye, Somalomba, ayo, Somalomba, Somalomba, obente la la bunyaye, Somalomba.
Et après cette douce prière chantée par Angélique Kidjo, on ne pouvait pas terminer cet hommage sans quelques notes de Soul Makossa, bien sûr, le tube de Manu Dibango.
Les carnets du monde.
Beaucoup d'entre vous attendent ce moment où nous filons ensemble pour un petit voyage en Autistan guidé par Joseph Chovanec et qui nous rejoint maintenant Sophie Larmoyer.
Joseph est un voyageur confiné, ben oui, comme tout le monde, mais voyageur quand même, et philosophe et autiste Asperger. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous nous parlez depuis votre chez-vous en Belgique, où vous réfléchissez notamment à ce qui est important et ce qui l'est moins.
Oui Sophie, on l'a entendu je ne sais combien de fois ces temps-ci. Il faut se focaliser sur l'essentiel. Très bien, mais concrètement, en quoi ça consiste? Et justement, selon les lieux et les cultures, l'essentiel, ça varie du tout au tout.
Oui, ce qui va être essentiel ici ne va pas l'être, par exemple, en Inde ou en Thaïlande.
Oui, et même sans aller aussi loin, au sein même de l'Europe, de l'Union européenne, qui est pourtant en théorie assez homogène, il y a des choses qu'aucun gouvernement, quelle que soit la situation sanitaire ou autre, n'oserait interdire. En Hollande et dans les régions de culture proche, je pense évidemment à la partie flamande de la Belgique, il serait impensable d'interdire le vélo. Les responsables de la police, pourtant, ont exprimé leur perplexité. À quoi bon vouloir limiter les trajets longue distance si des cyclistes font des dizaines de kilomètres tous les jours juste pour se dégourdir les jambes? Ben oui, c'est l'entraînement néerlandais. Hein. Et autre spécificité hollandaise, les fameux coffee shops. Et comme chacun sait, ils vendent autre chose que du café. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça d'ailleurs.
Ils vendent du cannabis et j'ai vu, hein, ils ont été fermés dans un premier temps, comme tout le reste des boutiques jugées non essentielles en fait.
Oui, dans un premier temps, mais chose à peine croyable, un peu après, on a dû les rouvrir en catastrophe, parce que les gens faisaient la file d'attente pour faire des stocks. Impossible de tenir sans sa marchandise quotidienne essentielle. Ouais. Évidemment, les trafiquants venaient eux aussi jusque dans la queue pour dire aux gens qu'ils étaient là.
Ouais. Et en Belgique alors, Joseph, qu'est-ce qui est essentiel? Comment ça se passe?
Je dirais, curieusement, pour une fois, c'est la Belgique qui passe pour bien plus sage et plus rationnelle que certains autres pays. Alors, les mesures en Belgique sont certes de façon générale beaucoup plus humaines qu'en France, mais surtout, le gouvernement fédéral a insisté dès le début de la crise sur un élément oublié en France, à savoir l'accès aux livres. Les librairies ont donc été classées sur la liste des lieux essentiels. Bien sûr. Par ailleurs, des efforts ont été fait pour l'accès aux livres des élèves, notamment privés d'école physique. Et même la reine Mathilde s'y est mise en lisant sur Internet des livres pour enfants. C'est pas tous les jours qu'on a un conte récité par la reine. Hein. Enfin, par contre, un point de blocage majeur en Belgique. Du fait de l'influence hollandaise, beaucoup de gens ici ont pour hobby les plantations, à la maison ou à l'extérieur. Mais malheureusement, les pépiniéristes sont fermés. Plusieurs voisins m'ont dit que si on ne rouvrait pas promptement les pépinières, une révolution menaçait. Alors, humour sans doute, mais plus sérieusement, des arrangements en termes de livraison à domicile ont été mis en place. Donc, ouf, la paix civile est sauvée.
Bah, c'est bien parce que alors ici, c'est fermé, hein, sauf pour l'alimentation animale.
Mais justement, à titre personnel, Sophie, le point que je craignais le plus, c'était la fermeture des chocolateries. Au début de la crise sanitaire, je ne pensais qu'à ça. Mais ouf, j'ai pu constater que le nécessaire vital pour moi était ouvert, donc les chocolateries. Mais malheureusement, à ce jour, je n'ai encore jamais osé rentrer physiquement dans une chocolaterie belge.
Ah bah voilà, là c'est l'occasion, Joseph, allez-y. En tout cas, vous marquez un point en Belgique avec les librairies ouvertes. Vraiment.
Bah, d'une certaine façon, dans mon quotidien, je suis comme dans le dicton wallon. Magnus pan al formil de rosti. Littéralement, manger son pain en profitant également de la fumée du rôti de l'autre. Et, ou si vous préférez vivre sa vie tout en appréciant ce que l'autre fait à distance, certes. Justement, ces temps de confinement, c'est la présence de cet autre. Alors qu'il fume son rôti ou qu'il plante les tulipes, eh bien, c'est cette présence-là qui est sans doute la chose véritablement essentielle.
C'est vrai, ce confinement nous donne envie des autres. Merci beaucoup, Joseph. Portez-vous bien.
Merci, Sophie. À tantôt.
À dimanche prochain. C'est la fin des Carnets du Monde. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore pour ces deuxièmes carnets faits à la maison. C'est Florence Gimalac qui les a préparés avec moi. Nicolas Six a réalisé l'émission. Merci à eux. Et je passe le témoin à Nicolas Carreau.